vous venez d'assister à une cérémonie, le baptême, et c'est beaucoup plus qu'un simple cérémonial auquel certains participent. Parce que l'acte du baptême n'est qu'un symbole qui représente autre chose. Et cette autre chose, c'est ça qui constitue la signification véritable du baptême, la réalité derrière l'acte. Donc nous pouvons affirmer que le symbole, entrer dans l'eau et sortir de l'eau, n'accomplit rien pour nous. Il ne sauve pas, il ne confère pas une grâce, on ne devient pas enfant de Dieu en passant par les eaux. La seule chose, c'est que c'est un acte d'obéissance au commandement du Christ. Pourquoi donc le symbole? Premièrement, parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a ordonné. Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est son commandement. Il ordonne à ses disciples de faire des disciples et de les baptiser. Donc mandater et inviter ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, eux-mêmes de se faire baptiser. Parce qu'il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici quelle est la promesse qui l'accompagne. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela devrait suffire, n'est-ce pas? Je pourrais arrêter mon message maintenant. Mais j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Si notre Seigneur nous demande d'être baptisés, et si nous sommes désireux d'obéir à notre Seigneur et accomplir sa volonté, alors nous devrions le faire comme nos amis l'ont fait, uniquement parce que notre Seigneur sait beaucoup mieux que nous. Si le Seigneur nous demande d'utiliser ce symbole de la réalité dans laquelle nous sommes entrés, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et notre part, c'est simplement d'obéir, obéir à son commandement. Mais si vous lisez bien la parole, le Seigneur donne très rarement un commandement sans explication. Une explication que nous allons voir ensemble. Le baptême d'eau a pour fonction de focaliser notre attention sur notre foi. Il nous aide à comprendre de tout ce que cela implique de suivre Jésus-Christ. Et il a été dit dans les témoignages, et nous l'avons vu les textes, c'est une coupure dans notre ancienne vie pour marcher en nouveauté de vie. Selon Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la grâce du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et donc cela décrit pour nous ce baptême spirituel, le baptême de l'Esprit Saint qui nous fait naître de nouveau dans cette nouvelle vie. Et c'est cela qui donne la signification à l'acte du baptême d'eau. Le baptême d'eau est notre témoignage public que nous avons par un engagement de cœur personnel intérieur. Fait le pas du renoncement à notre ancienne vie, une vie centrée sur elle-même, en réponse à l'appel du Seigneur pour désormais vivre une vie centrée sur Christ. C'est ça, marcher en nouveauté de vie, uni à lui. Et nous le suivons avec la force qu'il nous accorde dans cette vie nouvelle avec lui. Et donc être immergé dans l'eau, c'est mettre en relief ce que la parole de Dieu nous dit concernant la mort, l'ensevelissement. L'immersion proclame le message suivant, « Christ est mort pour mes péchés, afin que je puisse moi aussi mourir au péché. » Et le fait de ramener le croyant à la surface, nous le faisons à chaque fois, rassurez-vous, transmet le message suivant. Christ est ressuscité d'entre les morts, afin que je puisse, moi, vivre sa vie spirituelle nouvelle qu'il m'a donnée. Et le fait que ces actes prennent lieu avec la participation consciente de celui qui croit nous démontre cette identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, passer par les eaux du baptême est l'expression, une déclaration merveilleuse que ma vie est désormais en Christ et que je suis mort à moi-même, à mon ancienne vie. Étant abreuvé par son esprit, purifié, immergé dans l'esprit pour former un seul corps avec lui. Voilà donc la signification du baptême. Donc en soi, le baptême ne sauve pas. Si l'on n'a pas d'abord cru en Jésus pour notre salut, le baptême n'a pas de sens et demeure inutile. Le baptême d'eau est un pas d'obéissance qui s'opère après cette naissance spirituelle pour justement annoncer, publier, témoigner de notre foi en Christ. Et l'appartenance à une certaine église, prendre le baptême ou tout autre rite, ne fait de personne un chrétien. Alors, on ne devient chrétien que par une décision personnelle, basée sur le salut par la foi, sans aucune œuvre humaine. Et après avoir reconnu notre indignité face à la sainteté de Dieu, nous acceptons que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Et ceux qui ont fait cette démarche ont le droit de s'appeler enfants de Dieu. La première condition exigée par le Seigneur, lui-même, pour le baptême, c'est la foi. Comme il nous est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le Sauveur donne d'abord l'ordre de prêcher l'Évangile. Et celui qui croit, après avoir entendu l'Évangile, de se faire baptiser. Lors de la première prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, nous pouvons constater cette mise en pratique de cette condition préalable. Dans Actes 2, 41, 3000 personnes ce jour-là acceptent, reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc en acceptant la parole de Dieu, chacun prend cette décision personnelle de témoigner que notre vie est en Christ désormais. Donc le baptême est une affaire de foi, un acte de foi, une décision personnelle. Acte 8, 12, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La deuxième condition pour se faire baptiser, c'est de vivre de manière sincère devant Dieu et en toute transparence. C'est d'abord une démarche sincère de repentance, comme on peut le dire dans Actes 2, 38, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc ni or, ni argent, ni les œuvres bonnes, ni les sacrements assurent une place au ciel. Seule la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui a été annoncée, prophétisée dans tout l'Ancien Testament, racontée et expliquée dans les évangiles, les épîtres, c'est le seul passeport pour la vie éternelle. Ceux qui ont cette foi peuvent désormais être baptisés. Ce qui veut dire que le baptême n'est pas un ticket d'entrée au ciel. Si on considère et comprenons que par le baptême, on devient un enfant de Dieu, on fait fausse route. Nous faisons du baptême une œuvre qui nous sauve. Or, la parole de Dieu est limpide, elle est claire. Éphésiens 2, 8, « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. » Je dirais que le baptême est non seulement pas un ticket d'entrée au ciel, le baptême n'est pas non plus un test ou une carte de fidélité. Il est malheureux que de nos jours, il y a souvent un grand laps de temps entre la vraie conversion, la naissance spirituelle et le baptême, pour certains des années. Se faire baptiser devient donc un obstacle, un problème, parce que il est perçu comme étant une preuve de fidélité et de croissance dans la foi. Un jour, me dit un jeune, j'arriverai à faire mon baptême. Je dis, qu'est-ce que tu attends ? C'est aujourd'hui. Quand je serai prêt ? Tu ne sais pas si tu vivras demain. Dans le Nouveau Testament, il y a toujours peu de temps entre la nouvelle naissance et le baptême. Le baptême, c'est une réponse joyeuse à la foi naissante, une déclaration de cette nouvelle vie. Et le fondement pour le baptême, c'est la simple confession de foi, non pas des années vécues à assister à l'Église. Nos amis l'ont bien dit. Ils ont beau assister, il a fallu ce moment où ils ont compris qu'ils devaient se repentir et demander pardon à Dieu. Alors, il y a des personnes qui peuvent vous dire exactement à quelle heure, quelle date et quel lieu ils se sont fait baptiser. Ils peuvent regarder en arrière et dire « Oui, j'ai déclaré ma foi ce jour-là. » Mais si vous leur demandez « Comment va ta vie chrétienne aujourd'hui ? Comment va ta marche en nouveauté de vie ?» Souvent, il n'y a pas de réponse. Enfin, le manque de réponse est une réponse. Le plus important, c'est que nous puissions dire « Et je la vis encore aujourd'hui. » Et chaque jour. Donc le baptême ne peut pas être une promesse de fidélité éternelle. Si nous le comprenons comme cela, nous faisons du baptême une œuvre qui nous sauve. Comme si une de mes promesses était assez forte pour assurer mon salut. Notre baptême ne nous sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi doit être vécue chaque jour, cette confiance en notre Seigneur et Sauveur. Et c'est peut-être là la chose la plus importante que je puisse dire aujourd'hui et partager avec vous. Celui en qui nous sommes baptisés est celui qui promet de faire quoi ? De nous accompagner par son Esprit tout au long de notre séjour sur terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parce que la foi vécue n'est jamais vécue tout seul. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 1, 6. Il a dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nos chers amis qui, dans leur témoignage, ont témoigné, n'ont pas affirmé qu'il s'agit pour eux de religion, de croyance, de vie morale exemplaire. Non, ils témoignent de leur relation avec le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu personnel. Et ce n'est pas le fruit de leur imagination, ce n'est pas un endoctrinement particulier, ni une éducation religieuse. C'est du vécu, c'est du concret, fondé sur la parole de Dieu. Écoutons le témoignage de la Bible dans l'épître de Tite, au chapitre 3, verset 4. Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Il y a tant de vérité dans ces quelques lignes que l'on pourrait passer la journée, si vous le voulez bien, pour les approfondir, mais nous n'allons pas le faire. La vérité centrale s'articule autour du salut des hommes, de la mort spirituelle, de la condamnation en raison du péché, à la vie en Christ. Lui qui est devenu homme pour devenir notre Sauveur. Notez bien comment commence verset 4. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et dans ces mots si simples, nous avons la vérité centrale de la foi chrétienne. Tout est question de l'œuvre du salut, l'œuvre de Dieu pour racheter, sauver les hommes pécheurs. Le verbe sauver, il nous a sauvés, veut dire il nous a arrachés, secourus de l'emprise du péché et de la force du péché. Et donc écarter le juste jugement divin sur le péché. Et donc préserver la personne de la condamnation de l'enfer. Alors pourquoi avons-nous besoin de ce secours, de cette délivrance, de cette sécurité? Regardez verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois quoi? Insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Voilà la description de la disposition intérieure de toute personne qui exclut Dieu de son existence, le Dieu d'amour. Insensé, c'est-à-dire sans discernement, désobéissant, c'est cette résistance envers Dieu, égaré, c'est-à-dire facilement berné et égaré par l'ennemi de nos âmes, qui veut nous conduire sur le chemin du mal, asservi, c'est-à-dire esclave, méchanceté et envie, c'est-à-dire comportement odieux envers le prochain, et haïssant, c'est-à-dire égocentrique et détestant tous ceux qui interfèrent avec notre poursuite de notre plaisir et de notre satisfaction propre. Et c'est de tout cela dont le Seigneur nous a secourus, sauvés. Et le fait est de toute évidence que nous ne pouvions pas nous en défaire par nous-mêmes. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Aucun être humain n'a ni le désir, ni la capacité, ni la puissance de le faire. Qui va donc y pourvoir? Eh bien, c'est le Seigneur. Il nous a sauvés. Dieu notre Sauveur. Un seul Sauveur. Dieu devenu homme, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Dieu est le Dieu du salut. Christ est le Seigneur des pécheurs rachetés, sauvés. Alors pourquoi est-ce qu'il nous sauve? Regardez le verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ainsi, au lieu de vivre dans la crainte de la mort, du jugement, sous la puissance du péché, Dieu nous arrache de cela, de cette vie-là, pour nous faire entrer dans son admirable lumière, nous délivre afin de vivre cette vie nouvelle, spirituelle avec lui, dans l'espérance de cette vie éternelle. Donc, il nous sauve pour changer notre destinée. Alors, revenons à cette phrase, il nous a sauvés, qui reflète le fait que c'est le salut est uniquement l'œuvre de Dieu. Nous étions totalement perdus, on ne peut pas changer notre condition, mort spirituellement dans nos péchés. Mais Dieu nous fait naître de nouveau, nous sauve de tout cela, dès que nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur de notre vie en nous tournant vers lui dans la repentance et la foi. Alors il y a cet aspect, cette facette de l'œuvre du salut de Dieu. Je vais les mentionner brièvement. Verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés. » Oui, Dieu est bon. Amen. Et dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés. Alors que veut-on dire par bon? Il s'agit d'un attribut, d'un trait de caractère, une disposition de cœur. Oui, Dieu est bon parce qu'il se soucie de toi et de moi. Nous qui étions des pécheurs misérables, parce qu'il n'est que bonté. Deuxièmement, autre facette, Dieu pourvoit notre salut à cause de son amour pour tous les hommes, pour l'humanité entière. L'appel de Dieu est pour tous. Dieu ne désire qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Un amour si profond, sans limite, un amour si grand, si puissant, que nous ne pouvons même pas le sonder, cet amour. Mais dans son amour, il vient toucher notre vie afin de nous transformer. Ensuite, Dieu pourvoit notre salut en vertu de sa miséricorde. Donc pas seulement dans sa bonté, dans son amour, mais par sa miséricorde. Donc si sa bonté conduit à aimer le pécheur et son amour le conduit alors à faire miséricorde. Vous savez, la miséricorde est différente de la grâce. La grâce concerne la culpabilité de l'homme. La miséricorde concerne la misère de l'homme, sa condition de péché. La grâce est de valeur juridique parce qu'elle pardonne, elle efface la faute. La miséricorde, c'est la compassion de celui qui pardonne pour aider le coupable à se redresser. Il nous a sauvés, non pas sur la base des œuvres que nous puissions accomplir par nous-mêmes, ni par le passage de rites cérémoniaux, mais en vertu de sa miséricorde. Puis il termine, nous a sauvés par le bain de la régénération. Pas par le bain du baptême d'eau. Parce que, je le dis souvent, on entre dans l'eau pécheur sec pour en sortir pécheur mouillé. Il nous a sauvés par le bain de la régénération. Ça signifie exactement recevoir une vie nouvelle, spirituelle, renaître. Et Dieu seul peut accomplir cela. Et merci à ce qu'il a fait dans nos vies. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. On le dit tous ensemble ? Merci Seigneur de m'avoir sauvé. J'espère que chacun a pu le dire en toute sincérité. Il accomplit cela, et Jésus avait prononcé ces paroles lui-même en Jean 3. Quelqu'un le questionnait, il dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Et il dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Nicodème n'avait pas compris. Comment est-ce que je puis rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Non, il faut une nouvelle naissance. Le pécheur est celui qui est mort spirituellement dans ses péchés. Il ne peut pas se relever lui-même. Il lui faut et la bonté et la miséricorde de celui qui sauve. Et Dieu vient pour donner cette vie nouvelle, régénérée. Et dans le processus, Dieu purifie nos cœurs, nos pensées. Il lave l'ancienne vie. La régénération, c'est donc appelé un lavement, une purification. Puis au verset 5, Dieu pourvoit notre salut par le renouveau de son esprit. Le salut démontre la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu. Il démontre sa puissance d'accorder la vie spirituelle éternelle, de purifier, de laver, de régénérer le pécheur, mais également en démontrant sa puissance de son renouvellement dans la vie de celui qui reçoit son esprit. C'est une logique incroyable. L'effet de la régénération est la vie nouvelle. Et cette vie nouvelle provient de la nouvelle naissance produite par l'Esprit de Dieu. Et notez bien la suite de la phrase, « Il a répandu sur nous avec abondance. » Dieu l'a répandu. Nous ne pouvons pas le procurer par nous-mêmes, c'est Dieu qui le répand. Et en abondance, à tel point que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. C'est sa puissance, sa force, qui alimente notre vie spirituelle. C'est sa force, sa puissance qui nous fortifie et qui nous garantit notre espérance de la vie éternelle. Et, dernièrement, verset 6, Dieu a pourvu à notre salut par Jésus-Christ. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ ont rendu ce salut possible. Il est venu dans ce monde pour payer le prix du rachat, de la rançon, le prix pour le péché. Il est venu dans ce monde pour vaincre la mort. Et il a pris notre place. Il a pris notre condamnation. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il a satisfait pleinement, lui, l'agneau sans tache et sans défaut, la justice de Dieu. Lui, l'innocent, prenant sur lui nos péchés, afin que, en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire déclaré juste par ce sacrifice-là. Il a payé le prix. La mort a été vaincue. La justice de Dieu a été satisfaite. Et c'est à travers Christ que nous pouvons être sauvés pour marcher en nouveauté de vie. Il nous a sauvés, dit le verset 6, par sa grâce. Et comme je l'ai dit, la grâce traite avec notre culpabilité. La grâce nous dit que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés à cause du sacrifice de Christ. Sans sa grâce, Dieu nous attribue sa justice parce que Christ a payé le prix à notre place. Désormais, nos péchés sont effacés. Le pardon est accordé. La bonté, l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu peuvent agir librement en notre faveur. Et nous savons que nous ne méritons rien de tout cela. Mais tout cela est selon le plan du salut de Dieu, parce qu'il désire réconcilier les cœurs des hommes rebelles, les hommes pécheurs, avec lui, le Dieu trois fois saint. Alors, comme nous l'avons lu au début du culte, dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, s'il est uni au Christ, il est créé à nouveau. ce qui est ancien, c'est fini. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Et il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous demande, nous aussi, d'annoncer cette réconciliation en tant qu'ambassadeur pour lui. Et ce baptême d'eau est le témoignage, le symbole visible de cette réalité invisible dans la vie de nos cinq amis ce matin. Et comme je dis, l'eau n'est qu'un symbole. Et donc Dieu nous fait bien comprendre que notre attachement doit être à la réalité derrière le symbole, non pas le symbole lui-même. Alors, une question, qu'en est-il de toi? Comprends-tu que Dieu t'aime et qu'il désire t'accorder sa vie nouvelle, spirituelle, éternelle? Jean 3,16, que nous connaissons bien, mais combien nous devons laisser pénétrer nos cœurs par cette vérité. Car Dieu a tant aimé le monde avec moi qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ma question pour chacun, chacune, c'est, est-ce que vous reconnaissez votre état de péché devant Dieu, qui est une entrave à une véritable relation avec votre Créateur? Dites-lui simplement, aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris que tu m'aimes, j'ai compris que ta parole est vraie, je prête foi à ta parole, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité et que tu es vivant aujourd'hui, et je me repens de mon ancienne vie, de mes péchés, et je me confie en toi et en toi seul. Pour mon salut, sauve-moi, purifie mon cœur. Et si c'est le désir de ton cœur, fais-le maintenant, dans le silence de ton cœur. Ou venez voir les anciens après le culte aujourd'hui et nous pouvons prier avec vous. Mais pour ceux qui ont déjà fait cette prière de repentance et de foi, qui professe que Jésus est votre Seigneur, je vous pose une autre question. Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Ton engagement à Christ s'est-il concrétisé par l'acte d'obéissance qu'est le baptême d'eau? Si oui, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'acte? Si oui, qu'en est-il de ta fidélité dans ta marche en nouveauté de vie, de ton obéissance à sa volonté? Dites simplement aujourd'hui, Seigneur, purifie mon cœur. Je suis prêt à t'obéir et je veux marcher à ta suite. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ce cantique.